Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À trois jours de la mi-carême, pour nous aider à creuser le mystère de ce temps liturgique, nous avons donc choisi à Radio Présence de faire à nouveau cette année une série spéciale d'émissions Vivante Église. Pour ce carême 2018, donc une série, comme vous le savez si vous avez suivi les lundis précédents, avec le frère Jean-Claude franciscain, cofondateur de la communauté de l'agneau, communauté d'hommes et de femmes, pardon, consacrée à Dieu dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, le thème de cette série donc, les béatitudes. Frère Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
On vous retrouve donc, je fais une introduction on va dire plus légère parce que ceux qui m'ont entendu les semaines précédentes vont finir par être lassés. En quelques mots, je ne sais pas, pour ceux qui ne vous ont pas suivi, si vous deviez vous représenter en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ?
Ah, je dirais, j'espère être un pauvre de Yahvé, un pauvre de Dieu et happé depuis ma petite enfance par le désir d'être un homme de Dieu. C'est comme une espèce de fil tout droit dans mon existence. J'ai toujours voulu ça. Et ça s'est réalisé quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent et jeune, dans une multitude d'engagements dans tous les sens. La JEC, le Père Filaire, l'Homme Nouveau, le patronage, la chorale paroissiale. Voilà, c'était donc un éclatement dans tous les sens. Une joie de vivre, je me vois déballant l'escalier à la maison et hurlant à mes parents, je suis heureux. Et je me rends bien compte que ce bonheur, pour moi, c'était une présence de Dieu, mystérieuse au fond de mon cœur, et le désir d'être un homme de Dieu, un homme de prière, ami de Dieu, ami des hommes. Voilà un petit peu comment je me sens.
Voilà, en tout cas, donc vous êtes, pour repréciser, franciscain, et donc avec une sœur dominicaine, vous êtes au début donc, de cette communauté de l'agneau, de frères et de sœurs, surtout de sœurs, qui vivent une vie religieuse classique, mais peut-être leur apostolat ont cela de particulier, que vous partez beaucoup sur les routes, à la rencontre particulièrement des plus pauvres, pour leur tenir compagnie, pour de rentrer en amitié avec eux, mais aussi pour mendier votre nourriture et éventuellement leur parler de Dieu. Troisième et quatrième béatitude, donc après « Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux, heureux les doux, ils posséderont la terre », vous avez regroupé la troisième et la quatrième, peut-être pouvez-vous commencer par nous les citer.
« Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Alors, tout du long, dans ces béatitudes, on a ce paradoxe d'entendre Jésus prendre l'histoire presque à rebours. Les affamés, assoiffés de justice, rassasiés, ceux qui sont affligés, consolés. C'est ce qu'on voit le contraire. L'affliction n'est pas une consolation. Le désir de la justice n'est pas l'accomplissement de la justice. Et Jésus dit le contraire. Pourquoi ? Parce que en sa personne, il a retourné tous les éléments. De la mort, il fait jaillir la vie. De la souffrance, il fait jaillir le bonheur. Mais je le dis de tout mon cœur, hein, parce qu'il est Dieu. Et souvent, on a cette affirmation dans l'Écriture, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, parce qu'à Dieu, tout est possible. Et ce retournement total que présentent les béatitudes signifie la toute-puissance de Dieu sur notre malheur. Voilà comment je vois en gros les deux. Ces deux béatitudes regroupées.
Alors, même exercice qu'à chaque fois, qu'est-ce que Dieu avait donné au peuple juif d'entrevoir sur ce sujet dans l'Ancien Testament et qu'est-ce que Jésus vient accomplir ou révéler de nouveau ?
Alors, dans le peuple ancien, l'affliction est très grande, mais on en a déjà parlé, mais c'est très très clair, puisque quand on regarde tout l'itinéraire, l'esclavage, la sortie d'Égypte, le royaume de Salomon, splendide, une gloire étonnante. Et puis après, les épreuves commencent. qui aboutissent à la ruine de Babylone en 587, je crois, avant Jésus-Christ, à la dispersion du peuple, la disparition de toutes ces institutions, et un énorme désespoir dans le cœur de tous. Et puis, une grande question, nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous dit constamment qu'il est notre Dieu, qu'il est le Dieu Tout-Puissant, et nous n'expérimentons dans notre existence qu'une série de catastrophes. Catastrophes qui se sont continuées dans toute l'histoire, hein, le peuple juif persécuté de tous les côtés. Et alors la consolation, je pense que c'est vraiment Dieu lui-même, au plus intime du cœur des croyants. Le croyant, dans la pire épreuve, se sait consolé par Dieu, retrouve au plus intime de lui-même. Je pense à Jérémie, qui est vraiment une figure très étonnante et que peut-être le prophète qui me touche le plus, parce que cet homme, en démarrant, il dit à Dieu, mais je suis complètement incapable de parler, je ne peux pas parler, je bégaye. Et Moïse également était dans cette situation.
Il était bègue aussi.
Il était bègue aussi. Et aller parler à Pharaon en étant bègue, ce n'était pas commode. Et très curieusement, Dieu s'emporte contre lui. Mais écoute, je t'envoie. Eh bien, prends ton frère Aaron, il sait parler. Et tu seras comme son Dieu, et lui sera comme ta parole, comme ton prophète. Alors, il y a chez ces gens-là, dont les débuts sont difficiles, il y a une immense consolation. Et Jérémie, qui est vraiment toujours avec un métier impossible, il doit annoncer le malheur à son peuple.
Quel est son métier, juste ?
Il est prophète.
Ah, d'accord.
Il est prophète. Mais
c'est ça le métier impossible.
Il reçoit de Dieu d'annoncer au peuple, d'une part, de se rendre aux envahisseurs. Et évidemment, il est persécuté à cause de cela. Et ça m'a toujours intrigué. Ce pauvre Jérémie qui doit dire au peuple, rendez-vous, passez du côté des envahisseurs et vous aurez la vie sauve. La ville, évidemment, derrière ses murs, entend bien au contraire résister. Alors la catastrophe arrive, toujours pour la même chose. Hein. Vous n'avez pas voulu écouter Dieu. Vous n'avez pas voulu écouter le fond de votre cœur. Vous vous êtes confié à vos propres idoles. Vous n'avez pensé qu'à votre propre pensée à vous et vous n'avez pas voulu accueillir Dieu. Alors voilà la grande affliction dans laquelle le peuple se met. Il se sépare du Dieu amour. Et je crois, Jérémie a cette image très impressionnante. Hein. Vous avez abandonné la source d'eau vive et vous vous êtes creusé des citernes lézardées qui ne contiennent plus qu'un peu d'eau boueuse. Voilà ce que vous avez fait. Évidemment, Jérémie, tenant ce langage, est persécuté par les siens. Mais tu décourages l'armée. C'est ta faute si le malheur arrive. Tu trompes le peuple. Par ta faute, il n'y a plus d'énergie dans ce peuple. Et alors, il est évidemment jeté en prison et fort maltraité. Puis, il s'entend avec le roi, il en est sauvé. Et puis, finalement, à nouveau, au moment où ils reviennent d'exil. Non.
Quelle est l'expérience de la consolation cœur de cette affliction que vous décrivez ?
L'expérience de la consolation, c'est que Jérémie, dans cette situation terrible, reste attaché à Dieu et trouve toujours un tout petit noyau de gens qui vont le tirer d'affaire. Il avait été jeté dans une citerne pour y mourir par ses ennemis, et puis le roi en secret envoie deux eunuques le retirer de la citerne. Et dans la vie de Jérémie, on sent toujours ça, une misère épouvantable et un salut qui lui est offert. Et finalement, au dernier moment, il est entraîné avec une bande de fuyards vers l'Égypte en leur disant « Mais non, 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 restez sur place », après des histoires dramatiques. Hein.
Donc si je résume l'expérience que les Juifs ont fait, c'est qu'au cœur de leurs afflictions ou de leur désir de justice, Dieu les a régulièrement consolés et rassasiés. Alors qu'est-ce que Jésus vient accomplir et vient ouvrir de plus et de plus grand ?
Alors, j'aime beaucoup cette question. Et il y a à peu près 7 ou 8 ans, Je lisais le premier tome de Jésus de Nazareth de Benoît XVI et il pose cette question: qu'a apporté Jésus? Il n'a pas apporté la paix, il n'a pas apporté la guérison, il n'a pas apporté la justice, telle que voit le monde dans lequel on est maintenant. Qu'est-ce qu'il a apporté? Et la réponse est: il a apporté Dieu. Et quand j'ai lu cette phrase sous la plume de Benoît XVI, mais j'ai ressenti une joie profonde. Et je me suis rendu compte que cette joie voulait dire: mais ça, c'est ce que dans le fond de ton cœur tu penses depuis toujours. Ce qu'a apporté Jésus aux hommes, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est Dieu fait homme. Et ceci est absolument incomparable. Et tous ceux qui sont touchés de près ou de loin, mais surtout de près, par cette vérité, peuvent vraiment traverser toutes les afflictions et tous les pleurs et toutes les injustices et ressentir au plus intime d'eux-mêmes une très douce consolation. Quand...
Alors on prendra des exemples peut-être après la pause, comme pour chacune émission.
Oui.
Je vous pose la question rituelle. Quelle est l'urgence de trouver à vivre cette béatitude aujourd'hui, ces deux béatitudes? Heureux les affligés car ils seront consolés, heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés. Pourquoi faut-il être affamé, voire affligé?
D'abord, premièrement, ce que je sens, hein, c'est une grande compassion pour tant de gens autour de nous qui sont dans la souffrance, dans les pleurs, écrabouillé par une injustice insupportable. Je pense même aux agriculteurs, là, tout dernièrement. Cela m'a beaucoup, beaucoup frappé, parce que depuis très longtemps, en écoutant la parole des papes, je vois bien que depuis très longtemps, ils protestent contre le sort injuste fait aux agriculteurs. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup de responsabilités économiques et avec les bêtes, ou bien, voilà, qui sont ensuite soumis à un tas de pressions et que leur travail ne fait pas vivre.
En tout cas, en arrivant à côté de chez vous, je vous coupe, on peut voir, y a des meules qui ont été recouvertes d'immenses sacs poubelles et il y a marqué Plavilla, village à vendre. Alors c'est probablement la suite des événements que vous citez, mais peut-être que les agriculteurs du coin ont l'impression qu'ils n'ont plus qu'à plier bagages. Donc c'est proche de chez vous, en tout cas.
Oui, et puis j'ai été pendant 10 ans curé de petits villages autour de Vézelay, et j'ai beaucoup aimé ces agriculteurs. Et j'ai toujours ressenti douloureusement l'injustice qui leur était faite. Alors, je vois que au sein de cette injustice, les chrétiens que je connaissais m'ont beaucoup ému par leur fidélité à Dieu dans cette épreuve et dans cette injustice structurelle à laquelle ils étaient en permanence soumis. Et je raconte une histoire qui m'a beaucoup touché. Il y avait dans un village un maquignon tout puissant qui vivait dans une misère sordide sur des sacs d'or, lui et sa femme. Cet homme était étrange pour moi, mais je le connaissais. Et mystérieusement, j'avais une sympathie pour lui. Et alors, le petit groupe de jeunes chrétiens qui réfléchissaient, on dit devant moi: cet homme, on ne peut pas s'en passer. On n'est pas capable, nous, de vendre les bêtes. Il n'a pas son semblable pour acheter, pour vendre une bête. Transactions à travers lesquelles il ramasse beaucoup d'argent. Et cette injustice était criante. Les producteurs ne pouvaient pas bien vendre leurs bêtes et lui, il les vendait très très bien. Alors, ils ont décidé un jour d'aller le trouver. Et ils ont été le trouver en lui disant: vous savez bien, et nous savons bien, que nous avons besoin de vous. Mais serait-il possible de mieux partager vos gains et de donner avec plus de justice ce qui revient aux éleveurs? L'affaire n'a pas bougé, hein, mais ce dialogue m'avait énormément frappé. Le courage de ces jeunes, hein, c'était des jeunes agriculteurs, et qui ont fait cette démarche, ça m'avait beaucoup touché. Et je sentais très très bien que dans cette injustice qu'ils souffraient, la démarche qu'ils faisaient les consolait. les rassasiés de justice, eux, ils n'avaient pas été mettre le feu à la masure de cet homme, ils n'avaient pas brandi le poing contre lui, ils avaient dit ce qu'ils devaient dire. Et dans cette parole, ils s'étaient trouvés être des hommes droits, solides, francs, ouverts, capables de rester amicaux dans cette inimitié, dans cette injustice. Je n'ai pas l'impression qu'ils pouvaient aller plus loin au niveau où on était. Mais leur droiture et leur courage m'avaient énormément touché. Et je pense que la récompense qu'ils recevaient, la consolation de leur affliction, c'était cette droiture de leur cœur qu'ils éprouvaient. Ils connaissaient leur dignité, ils connaissaient leur noblesse, et ça, c'est pas un petit don dans l'histoire de l'homme. Voilà comment je vois une pratique de l'Évangile donnant à l'homme une conscience douce, apaisée et forte de lui-même.
On va faire une première pause et on vous retrouve après pour d'autres illustrations traditionnellement dans la vie d'un saint, dans votre communauté ou dans votre vie, et peut-être une figure qui pour vous symbolise ces deux béatitudes que je rappelle qui sont heureux les affligés car ils seront consolés, heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin donc sur les béatitudes. Pour rappel, nous sommes avec le frère Jean-Claude franciscain, cofondateur de la communauté de l'agneau. Et aujourd'hui, il s'agit de la troisième et la quatrième béatitude. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés. Vous avez donc dans cette deuxième émission quelques exemples à nous citer. Le premier exemple qui vous revenait en tête concerne à nouveau Saint François d'Assise, dont vous avez déjà parlé dans les deux précédentes émissions. Pourquoi est-ce que vous pensez à lui pour ces deux béatitudes et en quoi les illustre-t-il ?
Évidemment, quand vous me posez cette question, il me revient spontanément à l'esprit le grand mystère des stigmates de Saint François. Il avait plusieurs fois tenté, on l'a dit dans l'émission précédente, de franchir, d'aller chez les musulmans pour y endurer le martyre. Et puis, il y a eu des frères espagnols qui, de son vivant, ont été martyrisés, d'une manière d'ailleurs tout à fait insolite pour nous. Ils sont allés à Ceuta, qui, je crois, à ce moment-là, dépendait du Portugal. Et ils sont sortis dans la rue pour prêcher, en annonçant Jésus. Alors, le sultan du coin leur a dit « Taisez-vous », et le roi d'Espagne les a enfermés dans sa maison. Ils se sont échappés, ils étaient cinq frères, hein, et ils sont retournés prêcher. Et là, évidemment, ça a fini comme ça devait finir, ils ont été tués. Et quand on a annoncé la nouvelle à Saint François, il a dit « Ah, maintenant je peux dire que j'ai cinq frères mineurs. » Et là, je vois très très bien comment ce drame était en même temps pour lui une consolation. Comment cette injustice commise à l'égard de ses frères était en même temps pour lui, ça y est, ils sont comblés. Ils ont reçu ce que moi je désirais tellement recevoir. Il a donc vécu dans ce grand désir du martyr qui est bien répertorié par ses biographes et qui scandalise tellement aujourd'hui, même à l'intérieur de l'Église. Je m'en suis souvent rendu compte parce que j'ai toujours été fasciné par ces histoires.
C'est vrai que ça peut être difficile à comprendre, vous en convenez. Oui. De chercher la mort comme cela, c'est quand même, ça peut paraître un peu...
C'est très frappant, mais je crois que ça, si on veut bien creuser...
Voire même, ça peut paraître orgueilleux.
Ça pourrait paraître orgueilleux, mais je suis persuadé que pour François, c'était l'immense désir de ressembler jusqu'au bout à Jésus. Et puis il y a un autre exemple chez Sainte Thérèse d'Avila qui est très très touchant. Elle aussi, elle devait avoir, je pense, 10 ou 12 ans, et elle avait un petit frère. Et bien sûr, autour, les musulmans régnaient. Et alors, elle a eu cette idée d'emmener son petit frère en disant « Allons, on va mourir martyr ». Alors évidemment, ça s'est terminé, je crois, par une bonne fessée, mais le désir dans le cœur de ces deux enfants est très très touchant. Et il y a d'autres exemples, il semble bien que c'est le père Perboire, qui a été martyrisé en Chine. Quand il était enfant aussi, il était bouleversé par l'idée de ces hommes qui allaient jusqu'au bout de l'amour. Et je vois très très bien que dans mon enfance, les récits nombreux de martyrs qui revenaient me touchaient profondément. Alors donc, Saint François a vécu dans ce grand désir de ressembler à Jésus jusqu'au bout. Et c'est très simple. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors évidemment, tout le monde est appelé à donner sa vie au moment où il est appelé. Mais François avait ce désir dans le cœur. Et je me répète souvent, et je le dis quelquefois aux autres, je suis persuadé qu'une fois qu'on a reçu le baptême, qu'on est devenu chrétien, il y a quelque chose de ce mystère du martyr du Christ qui se développe en nous. Alors aujourd'hui, c'est tellement combattu par l'esprit hédoniste et consumériste qui domine dans notre pays que ça paraît complètement insolite. Mais comme je vous disais, l'autre jour, je suis convaincu que dans le cœur profond des hommes, ces mots doivent trouver une résonance. Alors, ce fameux mot de saint François de Sales dont je vous avais déjà parlé, ne parlez de Jésus que si on vous le demande, mais vivez de telle manière à ce qu'on vous le demande. Je suis persuadé que ça joue ici, que la consolation que saint François visait en demandant le martyre, qui lui a été refusé, et Jésus lui a accordé à la place des stigmates. Et alors, dans le récit des stigmates, c'est très touchant, parce que...
Donc quand... le stigmate, c'est le fait d'avoir donc les signes de la passion dans son propre corps.
C'est ça.
Et on dit que saint François a été le premier stigmatisé de l'histoire de l'Église.
Exactement. Et alors, quand la description des stigmates est très émouvante, parce qu'il ressent une douleur dans son corps et une joie immense dans son cœur. Et un détail encore me touche beaucoup, c'est que pour se préparer à cette rencontre, il s'était retiré dans un coin de haute montagne, enfin dans les Apennins, dans un endroit extrêmement solitaire et qui était assez mal famé. On disait qu'il y avait pas mal de brigands. Et ce grand terrain lui avait été donné par un comte. Certains disent que c'était précisément parce qu'il y avait des brigands qui lui a donné ce terrain. Et saint François faisait ce carême de la Saint-Michel, comme on disait, 40 jours avant la Saint-Michel. Et vers la fin, il priait. Et par une indiscrétion involontaire, le frère Léon, son confident le plus proche, a entendu comment il priait. Et saint François répétait comme une pompe, « Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je ? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je ?» Et alors, dans cet appel, on pressent, « Ah oui, celui qui est va se précipiter dans son cœur et il saura lui aussi qui il est. » Et puis, ce sont les stigmates. Le mystère le plus profond de Dieu, on pourrait dire, se jette sur lui et le marque dans son corps. Et ce qu'il disait lui a été donné d'une toute autre manière qu'il avait imaginé. Voilà. La croix est ici la plus grande consolation qu'il ait jamais reçue.
Alors vous placez la barre très haut là quand même hein, pour arriver à vous rejoindre, mais probablement qu'un certain nombre d'auditeurs assez avancés dans la vie spirituelle comprendront plus aisément. Vous aviez un exemple peut-être plus accessible qui concerne votre vie de communauté, puisque donc on l'a dit à plusieurs reprises, avec vos frères et sœurs vous allez mendier votre nourriture, et cela peut illustrer cette béatitude: heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés, ou alors heureux les affligés, ils seront consolé. Dites-nous quelques mots de cette providence qui console.
Peut-être la première mendicité me revient à l'esprit brusquement là. J'étais à Lyon, c'est dans la suite de la nuit que j'ai racontée, et je me dis, il faut maintenant mendier son pain. Et c'était la première fois. Hein. Et je me suis dit, je ne sais pas faire.
Donc pour rappel, vous avez, excusez-moi, mais comme on ne l'a pas dit pour l'instant dans cette émission, vos supérieurs ont, après 29 ans d'assistance, accepté que vous alliez passer un temps à la rue et que vous ayez une vie de sans-abri.
Oui, alors donc c'était les premiers pas. Et donc vers la fin de la matinée, je me dis, il faut maintenant que je mange. Alors, j'avais cousu une pièce de 5 francs dans la doublure de mon paletot, parce qu'on m'avait dit, si tu n'as pas ça, tu seras mis en prison. J'étais vraiment tout à fait ignorant. Bon, j'avais fait ça. Mais je n'avais pas un sou vaillant pour acheter un morceau de pain. Et je me suis dit, mais comment faire ? Oh, ben, je sais ce que je vais faire. Je vais aller sonner à une porte et puis je vais demander du pain. Mais au moment d'appuyer sur le bouton de la sonnette, mon bras était complètement tétanisé. Je me disais, mais non, je suis incapable de faire ça. Alors j'ai essayé plusieurs fois. Bon, ça ne marche pas. Et je m'aperçois qu'il y avait des fenêtres du rez-de-chaussée. Je vais taper au carreau. C'est quand même plus sympathique de taper un carreau que d'appuyer sur une sonnette. Je pars avec cette idée. Et puis je me dis... Non, c'est encore plus difficile de faire ça, de taper un carreau, des gens qu'on ne connaît pas, ça ne se fait pas. Alors je retourne prier dans une église, et puis j'ai une idée, mais je vais faire comme tout le monde, je vais demander de l'argent aux gens dans la rue. très bien, alors je me résous à ça, j'y pense, j'hésite, le temps passe, j'y arrive pas. Et puis tout d'un coup, je vois une femme qui descendait du trottoir, je traversais la rue, on s'est rencontré au bord du trottoir, et je lui dis, s'il vous plaît madame, est-ce que vous pourriez me donner un peu d'argent pour manger ? Elle était suivie de son mari, qui m'a violemment invectivé avec beaucoup de noms d'oiseaux que je ne peux pas répéter ici. Et ceci m'a jeté dans une peur panique. Et je me suis retourné prier en disant, ben voilà, je ne sais pas mendier. C'est ma vie, je ne sais pas le faire. Alors j'ai prié. Et tout d'un coup, j'ai eu une illumination. Ben, tu n'as qu'à aller dans une boulangerie et demander du vieux pain. On ne te le refusera pas. Alors, j'avais une petite boulangerie, je vois qu'il y avait quelques marches à monter. Je regarde la file, je me mets dans la file des gens qui attendent. Et puis je vois au bonheur que je vais me trouver tout d'un coup seul en face de la boulangère et que je vais pouvoir formuler ma demande. Et au moment de parler, je lui dis, « Pardon madame, pouvez-vous m'expliquer comment on va à la Croix-Rousse ? » C'était à Lyon, hein, c'est un quartier de Lyon. Et la dame m'explique très gentiment. Et je ressors de la boulangerie sans pain et sans rien du tout, que d'être encore plus bête. Et je me suis mis à errer dans les rues en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et tout d'un coup, j'avise une femme qui venait vers moi et je lui fais ma demande. Et je vois qu'elle fouille dans son porte-monnaie. Je me dis, celle-là, je peux plus la lâcher, c'est impossible. Et tout d'un coup, elle me regarde des pieds à la tête. Elle me dit, mais qui êtes-vous ? Et je lui réponds, je suis prêtre. Et elle me répond, non monsieur, un prêtre ne vit pas comme ça. Et je suis resté pantois. Et elle me remet 2 francs 50 ou 5 francs, je ne sais plus bien. Mais enfin, elle me remet un peu d'argent.
Et alors pourquoi vous citez cette histoire pour illustrer la providence de Dieu quand on est affamé ou...
Tout à fait.
Pourquoi vous la citez ? Parce qu'en l'occurrence...
Parce que même dans ces conditions très difficiles, j'ai reçu ce dont j'avais besoin. Tout de suite, j'ai pu aller acheter, je me rappelle très bien, 1 litre de lait, du pain et 2 oranges. Je me rappelle très très bien de ça. Mais toute cette succession de difficultés, d'afflictions finalement, je comprends bien qu'on peut entendre ça en disant c'est puéril, mais c'est ma vie, ça s'est passé comme ça. Et je vois bien que ces événements ont déterminé la suite. Et la communauté de l'agneau, qui contient maintenant 160 sœurs et 30 frères, elle s'est enclenchée dans ces histoires, qui, bien sûr, sont quelque part insignifiantes, et qui, en même temps, à mon sens, étaient conduites par Dieu.
Et donc, vous vivez de la Providence ?
Oui.
Exclusivement de la Providence depuis maintenant combien d'années ?
40 ans.
Depuis 40 ans.
Oui, et maintenant nous sommes 190 et nous continuons pour la nourriture, hein, l'électricité, les voyages. On a besoin d'argent que l'on reçoit aussi gratuitement. Parce que dès le départ, on avait déclaré pas de salaire pour un travail, pas de travail pour un salaire. Alors ce n'est évidemment pas qu'on ne travaille pas, mais on s'est refusé à entrer dans le système économique et on a clairement écouté la parole de Jésus que je citais l'autre jour, dans laquelle Jésus envoie ses disciples en tournée de prédication sans rien du tout. Alors s'ils n'ont rien, il faudra qu'ils reçoivent le repas, la nourriture et aussi le logement. Et ça, j'ai vraiment vécu ça pendant des années, pas en continu, mais assez fréquemment quand même. Et j'ai toujours été bouleversé par ça. La peur qui m'a toujours pris au ventre au moment de demander, et cette espèce d'étonnement de recevoir. Étonnement. Ah bon ? Et alors, avec cette découverte...
Allez-y, je vois le temps qui file, donc comme je voudrais qu'on ait une troisième partie, mais finissez votre phrase.
Et alors, et cette découverte qui m'a toujours tellement surpris, la panique en sonnant, et tout d'un coup, une espèce de joie extrême quand on reçoit même un bout de pain. Une fois, c'était le chien, le pain pris dans la gamelle du chien, c'est certain. Et je l'ai reçu avec joie, ce pain. Et j'ai regardé les gens qui me le donnaient avec affection.
Voilà, pour quelques illustrations pour cette troisième et cette quatrième béatitude. Heureux les affligés, ils seront consolés. Heureux les affamés, assoiffés de justice, ils seront rassasiés. On fait une rapide deuxième pause et on vous retrouve pour quelques conseils pour, même si l'on n'a pas une vie religieuse aussi, on va dire, typée que la vôtre, ou pas de vie religieuse tout court, pour entrer dans ces deux béatitudes à l'occasion de ce carême.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Une émission Vivante Église ce matin donc sur les béatitudes. Pour rappel, nous sommes avec le frère Jean-Claude depuis Plavilla, perdu ou presque dans les collines, dans un petit ermitage où il y a un bon feu pour nous réchauffer et une ou deux icônes qui nous regardent et qui nous scrutent. Et le frère Jean-Claude, donc, qui est franciscain et cofondateur de cette communauté, la communauté de l'agneau. On ne va pas la représenter à chaque fois. Voilà, il faut écouter toutes les émissions, ou alors il faut aller voir un petit peu sur Internet. Vous trouverez quelques éléments. Comme de tradition, maintenant, dans cette dernière partie d'émission, quelques conseils spirituels pour essayer, peut-être plus précis, pour essayer de rentrer. Dans les mystères de ces deux béatitudes. Heureux les affligés car ils seront consolés, heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés. Votre premier conseil, vous voulez le répéter à l'envi, peut-être allez-vous le faire durant les six émissions, mais il faut
relire ces béatitudes. Il faut demander à Dieu de les révéler au plus profond de notre cœur. Et quand j'emploie ce mot révéler, ça me touche beaucoup. Parce que c'est un mot que saint François emploie d'une manière très touchante. Il dit, le Seigneur m'a révélé que nous devions dire, quand nous entrons dans une maison, « Père, cette maison ». Et ça m'a toujours intrigué que saint François ait dit, « Le Seigneur m'a révélé », alors que c'est une parole toute claire de l'Évangile. Et alors je comprends ce que ça veut dire. Il a lu la parole, mais en même temps, il en a reçu la révélation au fond de son cœur. Et je suis persuadé que c'est ce genre de lecture que nous devons faire et répéter. Et dans ma propre expérience, c'est ce que je vois tout le temps. La plupart du temps, quand je prêche, j'apprends par cœur l'Évangile, et après, à Dieu, vogue la galère, peu importe où ça part. Je ne sais pas faire autrement. Je crois que j'ai une fois écrit un sermon au crayon rouge sur une grande feuille de papier blanc, une seule fois dans ma vie. Mais autrement, je ne peux pas faire autrement. Et qu'est-ce qui se passe ? Je n'avais qu'une idée. Oh, que l'Évangile me pénètre profondément, et je n'ai qu'un moyen, le répéter.
Donc ça, c'est le premier conseil spirituel. Voilà, comme un père, vous insistez et vous, il paraît qu'éduquer, c'est rabâcher. Ensuite, quels sont vos conseils spirituels plus précis pour essayer de rentrer dans ce, comment dire, pour trouver cette clé au-delà de l'apparent paradoxe de ces deux béatitudes, puisque c'est un peu toujours le même chemin. Trouver la clé qui permet d'aller au-delà du paradoxe.
Alors, je suis persuadé qu'on doit d'abord regarder dans sa propre vie les lieux d'affliction et d'injustice. Il faut les regarder tels qu'ils sont et ne pas penser que pour être bon chrétien, il faut dire que tout est très bien. Au contraire, hein, dans l'histoire du peuple juif, est une histoire de péchés, de catastrophes qui se succèdent. Et ça m'impressionne énormément. Et l'histoire de Jésus suit exactement la même courbe. Pendant peu de temps, il y a un immense bonheur, la prédication en Galilée, les noces de Cana, la multiplication des pains. Mais très très vite, l'opposition se fait. Jésus est observé, espionné et regardé de haut par l'aristocratie du temple, et ça aboutira à sa condamnation à mort. Alors, cette injustice que Jésus subit, ces pleurs qu'il verse, il faut d'abord que vous les reconnaissiez dans votre propre vie et que vous puissiez les regarder. Ah oui, ici vraiment, je suis l'affligé. Ici vraiment, je verse des pleurs. Et à partir de cette expérience, demandez à Dieu, mais où est la consolation que tu me donnes ? Où est la justice que tu produis dans ma vie ? Et alors, on tourne les yeux vers Jésus ou vers les saints et on voit toujours la même chose. La justice que reçoit Jésus, finalement, c'est la résurrection. Et Jésus le sait, puisqu'il en parle de nombreuses fois, de très nombreuses fois dans l'Évangile, soit de manière un petit peu voilée, comme très souvent quand il parle, soit de manière directe. Et je crois que c'est ce mouvement-là qu'il faut essayer d'initier dans le fond de notre cœur. Ah oui, il faut que je regarde ma peine, il faut que je constate l'injustice dans laquelle je me trouve, et il faut que j'appelle à Dieu et que je reçoive de Dieu la consolation et la justice.
Vous vouliez nous citer aussi, enfin faire un distinguo entre le malheur et les épreuves et revenir sur votre expérience avec les personnes sans domicile fixe pour cela.
Oui, je me suis rendu compte d'abord que quand j'étais au milieu des sans-abri, il fallait beaucoup écouter et ça m'était souvent très difficile parce que quand on a affaire à un homme qui est ivre ou dont l'état mental n'est pas en bon état, j'avais beaucoup de mal avec ça. Et c'est un des frères avec qui je vivais qui m'a dit un jour, mais écoute-les et aime-les.
Parce que vous viviez à la rue avec d'autres frères.
Oui, nous étions trois frères à un moment donné, puis ensuite deux.
D'accord.
Et c'est l'un des deux qui m'a un jour dit ça. Et ça fait tilt. Ah mais bien sûr, je dois les écouter avec amitié. Et c'est à ce moment-là que s'est formée dans mon esprit cette pensée. Mais il faut leur dire et leur répéter, vous n'êtes pas dans le malheur, c'est le monde qui vous voit comme des malheureux. Mais Dieu vous voit comme des gens éprouvés. Alors on pourrait penser à Abraham, quand Dieu éprouva Abraham et lui demande de sacrifier son fils. Ça pourrait paraître, et ça paraît d'abord une énorme injustice et un déchirement sans nom, parce que Jésus insiste, ton unique, celui que tu chéris, Isaac, tu vas aller sur la montagne et le sacrifier. Et on sait bien qu'au dernier moment, Dieu arrête le geste d'Abraham et c'en est fini dans la religion judéo-chrétienne des sacrifices humains, alors qu'on sait très très bien que ça continue actuellement en beaucoup d'endroits. Et à ce sujet, j'ai de bonnes raisons de penser qu'un certain nombre des enfants qui disparaissent servent à des sacrifices humains. J'en ai la quasi-certitude. Hein. Alors, voilà les preuves. Et puis, la consolation, c'est toujours la même. Hein. L'amour de Dieu qui, au milieu de l'épreuve, surgit de ton cœur. Ah oui, mais je suis quand même aimé. Et quand mon frère me donnait ce conseil, écoute-les avec amour, il avait raison. Et ça a complètement changé ma manière d'écouter. Et ça m'a donné une patience que je n'avais pas du tout avant d'avoir laissé cette pensée habiter mon cœur.
Donc le conseil, méditer, reméditer l'évangile, les béatitudes, demander à Dieu d'aider, nous aider à y voir clair dans, comment dire, trouver ce qui peut faire écho à notre vie, pardon, je cherche mes mots, et puis nous dire que l'on n'est pas dans le malheur, mais dans l'épreuve, et que Dieu travaille, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Et ça, on peut le dire à son enfant qui a raté une composition, à sa maman qui est malade, à un ami en train de mourir. Ça me paraît être une parole essentiellement vraie.
Voilà, merci frère Jean-Claude pour cette troisième émission, donc sur cette troisième et quatrième béatitude. Heureux les affligés car ils seront consolés, heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés. On vous retrouve lundi prochain pour une quatrième émission de cette série des béatitudes. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.